Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et avant tout, je souhaite vraiment vous remercier pour la manière dont vous conduisez nos travaux, vous-même et toute votre équipe. Nous avons vu dès hier que nous avons une véritable discussion substantielle et c'est bien lié à le résultat de votre préparation de nos travaux. Je souhaite également élargir mes remerciements à l'unité de soutien, bien entendu, de la CCAC et à l'UNODA. J'en viens à notre discussion. Peut-être quelques points de précision et ensuite un commentaire sur chacun des points que vous avez soumis. Sur les principes, puisque nous avons beaucoup parlé, et c'est heureux, de la définition d'un système d'armes létales autonomes. Comme beaucoup de délégations l'ont rappelé, mais également l'Inde, elle est indissociable de la façon dont nous caractérisons le champ d'application de l'instrument. Et c'est la manière dont nous avons structuré aussi la double approche qui interdit une première catégorie d'armes parce qu'elle est incompatible avec le droit international humanitaire et d'autre part qui vise à réguler une deuxième catégorie d'armes. Donc, premier point sur cette distinction entre les systèmes qui sont pleinement autonomes, et les systèmes qui intègrent de l'autonomie. Les systèmes pleinement autonomes, ils agissent sans supervision humaine. Ils sont capables de s'assigner eux-mêmes des objectifs dans un environnement qui est complexe et au-delà de leur programmation initiale, sans subordination aucune à la chaîne de commandement. Tandis que dans la deuxième catégorie d'armes, les systèmes qui intègrent de l'autonomie, ils demeurent sous contrôle humain. C'est ce qu'on appelle, donc c'est pour ça, les systèmes d'armes qui sont partiellement autonomes. Donc dans cette catégorie, les fonctions de décision du système restent subordonnées au commandement humain et sous sa responsabilité. Et ce critère est important de cette caractérisation, la responsabilité. Pour autant, ce système partiellement autonome peut aussi être doté pour un espace-temps limité et sous certaines garanties de tâches d'exécution qui relèvent de l'autonomie dans des fonctions critiques, comme l'identification, la classification, l'interception ou l'engagement. Donc ça, je voulais refaire le point sur cette distinction pleinement autonome et partiellement autonome. Ensuite, le deuxième point qui a fait l'objet de beaucoup de débats hier sur le critère de létalité. Je voudrais juste rappeler que le critère de létalité fait partie intégrante du mandat du GGE SALA, de notre GGE, depuis son origine, pour répondre à une préoccupation éthique d'une machine qui peut prendre la décision de donner la mort à un être humain. D'autre part, l'élargissement du mandat serait contre-productif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cela amènerait à rendre les discussions encore plus difficiles qu'aujourd'hui et de nombreuses délégations, y compris nous-mêmes, conviennent de l'urgence à agir. Donc, il ne nous semble pas approprié d'élargir le concept, le champ du mandat. Troisièmement, il faut rappeler aussi que dans le cadre de notre approche, tous les systèmes d'armes, y compris des systèmes d'armes non létaux, sont de toute manière soumis au droit international humanitaire. Donc pour prohiber les souffrances et les blessures excessives et l'usage indiscriminé de telles armes. Donc tous ceux qui sont incompatibles avec le DIH, de toute manière, doivent être interdits. Alors j'en viens maintenant aux commentaires du tableau. Sur le premier point, nous avons clairement une préférence pour parler des systèmes d'armes létaux basées sur les technologies, puisque ce sont bien les systèmes d'armes qui sont au cœur de notre sujet. Et plusieurs délégations l'ont exprimé hier ou dans leurs documents, la Suisse, le Japon, les États-Unis, la Chine et le Mexique. Sur le deuxième point, il nous semble que la mention « once activated » est nécessaire. Parce que c'est bien l'activation, c'est le moment où l'homme va donner à la machine un certain niveau d'autonomie et où seront donc activées les fonctions critiques qui sont au cœur de notre raisonnement. Et la délégation cubaine l'a aussi rappelé. Sur le troisième point, les trois fonctions qui nous paraissent essentielles, c'est « identify, select and engage », comme les Philippines l'ont également évoqué. Le terme track se situe entre la sélection et l'engagement. Donc c'est une option, il n'est pas bloquant de le supprimer, et d'ailleurs ça a été proposé, je crois, par la Corée du Sud. Donc ces termes sont bien cumulatifs parce qu'il y a un continuum qui va mener à l'action létale et ils ne peuvent pas être alternatifs. Sur le troisième point, nous avons une préférence du point de vue de l'action militaire sur le terrain pour l'expression « application de la force ». Pourquoi ? Parce que c'est plus opérationnel que déploiement de la force. Et puis sur le cinquième point, nous avons une préférence pour « without further human intervention », comme l'a proposé le Costa Rica, qui est une notion plus englobante. Voilà, human intervention by an operator nous semble prendre en compte que la fin du système d'activation. Et donc, elle ne prend pas en compte toute la chaîne de commandement qui va mener à l'ordre final. Merci beaucoup pour m'avoir entendu sur ces premiers éléments de réaction.